Et oui, c'est la bande originale et je me rends bien compte de la chance que vous avez de passer cette heure en ma compagnie. Au menu, Vincent Dedienne, Laure Calamy, François Cluzet, Élodie Bouchèze, Lolita Chama, Mélanie Doutet, Franck Gastambide et la bande, bien sûr, au grand, grand, grand complet. Le meilleur de la bande originale, c'est parti.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Quand je pense à vous, je pense à un talent, c'est celui de Laure Calamy, notamment dans cet extrait.
Chiqui, Chiquita, elle a le regard qui tue, Chiquita, cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Elle a passé toute la nuit à me ploter. Elle est pas dans le même del que les filles d'à côté. Je la regarde dans les yeux, en sirotant mon cocktail. Elle m'a vue dans le VIP, me prend pour un mec mortel.
C'est votre interprétation version cinéma d'auteur de Chiquita, du rappeur Jules.
J'adore, c'est un petit côté Fanny Ardant. Un peu.
Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'avais dit, oui, que j'allais faire en Fanny Ardant. C'était dans le cadre d'une interview. Bon.
Quelque chose comme ça, où vous dites interpréter des paroles de chansons, plusieurs comédiens s'y sont prêtés à ce jeu-là. Voilà. Vous qui avez travaillé avec Olivier Py, avec Vincent Macaigne, on vous a vu récemment au cinéma, avec les Podalides, pardon, avec Guy Roddy. Est-ce que...
Avec les Polaroids aussi.
Les Polaroids.
C'était pour le casting.
C'est compliqué aujourd'hui.
D'ailleurs, elle n'a pas été prise. Elle n'aime pas les Polaroids. Elle pouvait faire les Podalides.
Est-ce que vous avez eu un temps, on vous a découvert sur grand écran, enfin, à la télévision avec 10%, mais est-ce que vous avez eu peur d'être étiqueté un peu intello? Parce que quand moi je vois vraiment toute votre filmographie et votre parcours au théâtre, c'est extrêmement
J'aimerais
pointu.
J'aimerais bien être étiqueté intello.
C'est vrai.
Non mais bon, non, enfin je sais pas, c'est étrange.
Non mais vous n'avez pas de crainte? Souvent les comédiens qui passent ici nous disent, voilà, à un moment dans ma carrière, j'ai eu peur d'être simplement cantonné à ça et qu'on ne pense à moi que pour un certain nombre de rôles, un certain nombre de metteurs en scène et que ça m'isole en fait de la possibilité d'aller où je veux.
Tout faire, ouais.
Oui. Non, parce que, enfin bon, puisque, enfin, 10% est arrivé assez vite et qu'il y a quelque chose. À la fois, c'est des gens de cinéma et en même temps, voilà, il y a effectivement quelque chose de grand public, etc. Mais.
C'est ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement on le connaît par la télévision, mais en fait Vincent, vous êtes tombé complètement dingue des textes d'Hervé Guibert, vous avez beaucoup monté ces textes au théâtre et c'est parce que le grand public connaît. Et finalement, là, comme on disait tout à l'heure, annoncer votre entre guillemets retour sur scène, alors que c'est pas du tout un retour, c'est une façon pour le grand public de vous découvrir dans cet exercice là.
Ouais, mais en fait c'est bien naturel,
normal. Sûr, et puis, non, alors on veut pas.
Ouais, et puis en plus c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt amusant de, en fait, il faut avoir la gourmandise de rendre les gens gourmands. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui... Par exemple, je me dis, les gens qui me connaissent... Il est 5h, hein, donc...
C'est pas mal,
c'est
5h
du matin. Non, mais les gens qui me connaissent dans un exercice, j'adore me dire, plutôt que de dire, ah bah ouais, mais ils me connaissent que comme ça et pas autrement, ils sont gonflés. C'est à moi, je me dis, c'est rigolo de moi les emmener ailleurs et de dire, d'aller chercher...
Quand on dit, le grand public vous connaît l'un et l'autre plutôt dans tel ou tel... personnage ou registre, ça veut simplement dire que ça a été plus diffusé par la télévision à un plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que le grand public ne vous aurait pas aimé dans un autre texte.
Non, mais c'est à nous d'avoir la curiosité et d'être assez aventureux pour aller les emmener ailleurs au prochain projet. Par exemple, moi j'adore me dire que les gens qui me connaissent de Canal+ ou de TMC et qui sont jamais allés au théâtre, par exemple, moi, quand j'ai joué mon spectacle...
Vous découvrez sur France 2 ou France 3 un truc fou, quoi.
Ouais, ou viennent voir du Marivaux. Non mais moi par exemple, j'ai découvert Victor Hugo parce que au théâtre de Mâcon, les places étaient à 12 francs et Philippe Noiret lisait les Contemplations de Victor Hugo. Et moi j'aimais Philippe Noiret parce que j'avais vu Les Ripoux et j'aimais cet acteur et je suis allé voir l'acteur des Ripoux et je suis ressorti et je suis ressorti avec Victor Hugo.
Exactement.
Et ça et aussi parce que les places étaient pas chères. Non mais c'est vrai.
Ouais, parce qu'il y a une vraie politique.
Donc, moi j'adore ça, j'adore me dire quand j'ai joué mon spectacle par exemple en tournée, j'avais mon public France Inter et Télérama qui était là, qui avait l'habitude d'être abonné.
Qui n'est pas toujours le même, attention.
Qui n'est pas toujours le même, mais qui est habitué à être abonné au théâtre. Et il y avait aussi les adolescents, les adolescentes ou les autres gens de TMC, machin. qui parfois venaient au théâtre pour la première fois et ça faisait des salles un peu mêlées, des générations mêlées, tout ouais. ça. Et ça, je me disais, ben là, moi, j'aime bien mon métier.
Le pari réussi, ouais, dans ce cas-là.
L'avantage, c'est qu'il y aura le public de Quotidien, le public de 10%, le public des revenants aussi, avec Clotilde Lhem, qui ouais. vont découvrir. Mais c'est l'intelligence aussi du casting.
Ouais, ouais, et puis le public de tellement de choses, parce que c'est moi, ça. Par exemple, quand je sais pas, quand je joue avec Vincent McCain, tout ça, c'est quand même des centaines de personnes qui viennent. Ouais. J'ai parfois, un jour, en allant acheter une lampe, une dame à Paris qui d'un coup me dit, j'ai cru qu'elle allait me parler de 10%, non, elle me parle du spectacle de Vincent qu'elle avait vu, enfin, je veux dire, c'est pas non plus, ça se mesure pas non plus.
C'est pas aussi cloisonné que ça.
Voilà, c'est ça, je crois qu'il y a quelque chose, et puis moi, quand vous me dites ça, moi, je réalise mon désir, donc moi, je suis très heureuse, je suis pas en train de me dire, enfin, je travaille, que ce soit Guy Roddy, Léa Misius dans Ava, enfin,
non, mais la question, c'était ça, justement, la question,
j'ai tellement l'impression de me réaliser dans ce que j'aime, que non, il n'y a aucun...
Non, mais la question, c'était vraiment ça, c'est de se dire ouais. à quel point on peut continuer à se réaliser sans être étiqueté et donc moins
appelé. Mais de toute façon, ça n'est pas mon
problème. C'est vous qui vous en moquez, d'ailleurs, dans votre seul en scène, ouais, quand on dit Strindberg...
Oui.
C'est ça, non ?
du théâtre classique.
Bah oui.
Enfin, du théâtre classique, pas classique, mais du théâtre de l'esprit de sérieux.
Oui, c'est le ton sur lequel même c'est dit, quoi.
Oui, oui. Bah oui, mais parce que moi, par exemple, moi, j'ai rêvé, quand j'étais adolescent, en fait, moi, à l'intérieur de moi, il y a plein de choses a priori irréconciliables qui sont réconciliées depuis l'enfance. C'est-à-dire que moi, j'ai rêvé du musical, en gros.
Ça s'appelle la psychanalyse, hein.
Bah, je sais pas, je connais pas. Non, mais voilà, moi, j'ai rêvé de musical. Je suis arrivé dans une école, au berceau de la décentralisation théâtrale, qui est la Comédie de Saint-Étienne, qui est une école nationale supérieure d'art dramatique, où j'avais que des gens qui ne connaissaient même pas Pierre Palmade. Et moi, je rêvais que de Pierre Palmade et de Muriel Robin. Et après, moi, j'ai dit, bah ouais, mais moi, c'est ça que j'aime. Après, je suis sorti de ça. J'avais joué Hervé, j'avais découvert Duras, Hervé Guibert, machin. Mais j'ai fait un spectacle où il y a et Saprit, chez Muriel Robin, et Duras, et Guibert, machin. Donc, en fait, on a l'impression que le public est aussi plus bizarre que ce qu'on pense.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs.
Et vous dites, c'est votre première émotion, Jacques Brel? Parce qu'à la maison, il n'y avait pas trop de place pour les émotions.
Bah, c'est-à-dire qu'on avait plutôt intérêt à cacher les émotions. C'était plutôt mal vu. On était dans une situation un peu précaire. Mon père nous élevait, mon frère et moi. Et on vivait dans ce commerce avec mes grands-parents. Tout ça n'était pas très, très agréable. Alors, évidemment, ma tante disait tous les ans, au 31 décembre, on va voir Annie Cordy dans Hello Dolly et tout ça. Moi, j'adorais ça. Et puis, une année, elle arrive dans la boutique. Elle dit, non, non, cette année, il y a Brel qui passe. On va voir Brel. Alors, mon père lui dit, et les petits? Oh, les petits aussi. On s'est retrouvé le 31 décembre à voir Brel dans L'Homme de la Mancha. On a appris. Moi, j'avais pris une claque, mais colossale. Au point, je me souviens, j'étais jeune, mais je l'ai vu pleurer, hurler, chanter. Et je me suis dit tout ça, je me suis dit, il va se faire engueuler, quoi. On peut pas se mettre dans cet état.
C'est génial.
Parce que, évidemment, génial. Chez moi, s'il y en avait un qui parlait de ma mère, il se faisait tout de suite flamber. S'il y en avait un qui dit moindre truc, ça va, t'es pas content. Et donc, et ensuite arrive la fin du spectacle, où il était en nage, en sueur, pleurant, les larmes se mêlant aux gouttes de sueur. Et là, je vois toute la salle se lève pendant 20 minutes et l'applaudit. Je dis, oh, bon, je veux faire ça.
Et il est payé pour ça.
Oui,
il est payé pour ça.
J'ai pensé à ça, mais je me suis dit, je veux faire ça. Ouais. Parce que.
Émouvoir, en fait.
Oui, chacun émouvoir. De nous, dans notre enfance, on avait quand même très souvent envie d'ouvrir sa gueule. En disant, ça va pas, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mes potes, ils vivent pas comme ça. Donc là, j'étais complètement subjugué. Et évidemment, ça m'est resté parce qu'après, à chaque fois que j'en ai parlé, j'ai découvert à quel point Brel était une idole.
Et comment il avait touché énormément de personnes. Alors, vous commencez à ce moment-là de votre vie, vous dire, je vais devenir une superstar, je vais devenir un Brel aussi. Et vous donniez des interviews imaginaires, je crois.
J'ai jamais pensé devenir un Brel, parce que j'ai quand même une Brel, peut-être, mais...
Non,
mais
un
Brel,
un
non,
chanteur,
parce que c'était trop haut. Hein. Ouais. Mais disons que j'ai toujours voulu être célèbre.
Ouais.
Donc, je devais avoir 7-8 ans, je commençais déjà à vouloir être célèbre, je donnais des interviews imaginaires. Mais à ce moment-là, je me pensais pilote de Formule 1. Donc, on me demandait de faire une course, d'aller ouais. acheter n'importe quoi. Il suffisait que je double une vieille dame avec un panier. Et en la doublant, je m'interviewais. Alors voilà, ça y est, vous venez de prendre la première place. Donc François Cluzet, vous voilà en tête de la course, et la course terminée, il passe encore en tant que premier, et je répondais toujours modestement. Oui, mais j'ai une bonne voiture. Je faisais la modestie. Je me suis beaucoup amusé ça, parce que ça a duré jusqu'à temps que je fasse vraiment des interviews. J'avais un manque de ne pas être interviewé depuis que j'étais
regardé,
petit.
D'être regardé, d'être...
Il faut qu'on me demande mon avis.
Non, mais c'est ça. J'ai compris que ça comptait position pas dans le studio non, tout à l'heure, vous vous souvenez ou pas? Premier, non. Deuxième?
Ce qui est drôle, c'est de penser à jouer la carte de la modestie pour être encore plus admiré pour le mérite. Quel talent! Non seulement il a du talent, mais en plus, il veut même pas le dire qu'il a du talent.
Puis je voyais tous les grands à la télé, étaient toujours les plus simples et les plus humbles. Donc, fallait copier là-dessus, quoi.
Et qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment autorisé à passer le pas, à devenir artiste?
C'est une espèce de concours de circonstances, parce que j'avais aussi un petit orchestre de rock à 10 ans, il y avait un guitariste, un batteur, et alors on chantait Lady Madonna et Nights in White Satin, dont je connaissais pas les paroles. Donc je chantais ça en yaourt, Lady Madonna, et le guitariste avait trois sœurs de 3, 5 et 7 ans, et qui me regardaient comme si j'étais un dieu vivant. Donc je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et puis après, l'idée de chanter m'a effrayé. Je me suis dit, mais j'écris pas les chansons.
Oh, vous êtes venu chanter avec Marc Lavoine dans ta
rappelle. C'est vrai. Mais l'idée de chanter, je me suis dit, mais donc il va falloir que j'aille voir des gens en leur disant, tu peux pas m'écrire une chanson. Ça m'a horrifié. Je me suis dit, oh là 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 là. Et puis, j'avais un mec dans ma classe dont le père était acteur. Et il m'a dit, tu ferais bien d'être acteur. Si tu veux, je te présente mon père. J'y suis allé. C'était Jacques Morel. Et qui m'a dit, je vous déconseille fortement de faire ce métier. Et là, je suis sorti en me disant, je l'emmerde, je le ferai quand même.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Salut les survivants de 2017, bonne année, va falloir vous accrocher.
Oui.
Et pour vous, mon cher Nagui, tous mes souhaits sincères de super santé, de félicité.
C'est gentil.
Alors, la prospérité, le succès, les comptes secrets à Jersey, Bahamas, Liechtenstein. Je vous les souhaite pas parce que je voudrais pas vous porter la poisse en vous souhaitant ce que vous avez déjà en masse. Bonne année à vous aussi, Elodie Bouchez et Lolita Chama. Et comme dirait mon cousin Dominique, quel casting sans ça, j'en suis, j'ai la direction des chamassons. Bon, mais soyons sérieux un instant, s'il vous plaît.
Ça va être dur.
Comme vous tous ici.
Comme
vous tous ici, je veux dire, comme vous tous ici.
D'accord.
J'ai été bouleversé par trois épisodes d'Aurore. On passait en même temps. La série dont vous venez de parler avec beaucoup de sensibilité, Nagui. Et je vous en félicite.
Super.
Mais oui, c'est parce que c'est pas facile, un sujet comme ça. Une gosse qui assassine un autre gosse. On touche à l'indicible, l'imaginable, l'atrocité, que le sens commun repousse parce que ça le dépasse.
Oui. Bah oui. J'aurais pas en même temps parce que ça devient très humide.
J'ai beau être l'orthophoniste des stars.
On comprend pas.
Je suis si ému que j'en bafouille. Ma langue fourche et ça vous brûle les côtes d'atouche. Désolé. Bon, il y en a un autre qui était désolé ce matin, mais avant l'émission, c'est GNB, notre élève chef qui est en régie là-bas derrière moi. Ça mérite explication. Ok, Nagui vient à l'instant de faire chialer la France en direct. Mais ce matin, quand sur sa fiche, il a lu que vous étiez ses invités, cher Elodie Bouchez, cher Lolita Chama, il a explosé. Tout en tabassant GNB, il vociférait. Je déteste la violence, t'es chiffonné, c'est zinzin, une série avec une jeune assassin, qui se trucide un petit garçon, c'est sordide. T'as quoi dans le citron? Tu salis tout, tu saoules tout.
Oui, mais là, vous mouillez beaucoup.
L'enfance, vous aussi. L'enfance, ajoutait-il en donnant un dernier coup de chaton dans le ventre de GNB, c'est sacré, pas touche. Alors la Bouchez et la Chama, j'en car passé pour autre chose. Mais oh mon maître, là j'ai fait la voix de GNB. Elles sont dans la loge des invités. Bon, ok, je vais assurer, mais faites vite venir Jean-Dominique Besnéard. Et me voici. Et pour détendre l'atmosphère, alors un petit test de diction tout simple. Elodie, c'est pour vous, vous allez me prononcer ça très très vite.
Il a dit s'il vous plaît, on n'a pas bien entendu, mais il a dit
ensuite,
s'il vous plaît.
Et ensuite Lolita, oui, s'il vous plaît.
Évidemment.
Allez-y Elodie, de plus en plus vite.
Truite crue, truite cuite.
Plus vite, plus vite.
Truite crue,
plus vite. Je soumets mes actrices en général, c'est truite.
Truite crue, truite.
À vous, Lolita.
Truite crue, truite cuite.
Plus vite.
Truite cuite, crue, truite cuite.
Accélère une dernière fois.
Truite crue, truite cuite.
Ouais, bravo.
Mais non, c'est pas triste.
Ça va Lolita?
Est-ce que Scorpion, justement, vous savez jouer à la guitare ou pas?
À la batterie.
Ça, c'est le premier morceau que tu apprends quand tu joues de la guitare.
Ah ouais.
Le premier.
Bonjour.
Ah ouais. Avec la guitare comme ça, entre les gens.
Non, ça, c'est Gypsy King.
Moi, j'avais 4 ans.
La guitare.
Mais alors, qui vous l'a imposé?
Voilà. Comment vous avez entendu?
Non, personne. J'ai vu le film Les Jeux Interdits. Ouais. Ça m'a...
Je l'ai revu et revu et revu comme on voit un peu obsessionnellement les films quand on est enfant. Et la scène de la fin où Brigitte Fossé appelle Michel qui va partir, ça m'a marqué longtemps.
Voilà. Et la musique qui va avec. Narcisse Coyépès.
Qui est très triste, mais qui est très belle.
Et pourquoi 88 ? Parce que c'est votre première apparition au cinéma. Vous incarnez dans Une affaire de femme de Claude Chabrol la fille d'Isabelle Huppert, à savoir votre maman dans la vie.
Ce qui est en bon choix, parce qu'il y a une ressemblance.
Ouais. Je pense qu'en termes de casting, voilà, c'est les bonnes personnes au bon endroit.
J'étais là, donc du coup c'était plus simple.
Ça aide. Ouais, ça aide. Ouais, justement, comment ça s'est passé ? Vous étiez là et c'était quoi ? Un rêve de gamine ou juste une opportunité ? Vous êtes sur le tournage et...
J'avais 4 ans, donc je pense qu'à 4 ans, on exprime ses rêves, mais pas totalement de façon formulée, mais... En tout cas, non, j'étais là, et c'est vrai que c'est quelque chose que je raconte souvent. Pourtant, j'ai pas tellement de souvenirs de mon enfance comme ça, si petite, mais j'ai un souvenir très très précis de ce tournage. François Cluzet, Marie Trintignant, les petits garçons qui faisaient mes frères, qui s'alternaient avec les deux jumeaux. Ça se tournait à Dieppe, et je pense que le cinéma fixe la mémoire très fort, et c'est vrai que c'est un tournage que j'oublierai jamais. C'est comme si c'était hier. Voilà. Et
comme si ça faisait partie de votre vie personnelle.
Complètement,
en fait.
Exactement. Ah, donc après, voilà, c'est ça. Je le vivais pas du tout comme un tournage parce que j'étais petite et que tout se mélangeait. Mais c'est vrai que j'ai un souvenir très précis et assez ému aussi parce que j'ai des souvenirs avec Marie Trintignant sur un manège. On était sur un cheval de bois à Dieppe et il y a cette scène dans le film. Enfin, j'ai des souvenirs comme ça.
Et très précis, ouais.
Voilà.
Et quelques années plus tard, vous remettez ça. Vous êtes encore une petite fille, toujours aux côtés de votre mère, dans Malina.
De Werner Schroeter, en Allemagne, enfin en Autriche. Un film très violent, où j'ai des scènes où je passe dans une orgie, où je meurs j'ai un accident d'un mur, enfin un film très particulier.
Vous n'avez même c'était un peu traumatisant. C'est ça ? Vos parents vous interdisaient de voir le film ?
Oui, mais je l'ai vu après, plus tard. Mais c'est vrai que c'était une expérience un peu spéciale. Ouais. J'étais très... très perturbé, mais bon.
Cette même période, dans les années 80, vous écoutiez Élodie.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
En réécoutant d'ailleurs ce morceau, ça vous évoque quel genre de souvenir ?
Bah, j'ai choisi ce morceau aussi parce que par rapport à la période, ça évoque le premier film dans lequel j'ai joué, qui était le dernier film de Serge Gainsbourg.
Stan the Flasher.
Voilà.
Comment se fait la rencontre avec Gainsbourg et cette première apparition au cinéma ?
En fait, il avait vu ma photo. Il y avait une photo de moi de trois quarts d'eau et il s'était arrêté sur cette photo. Il avait demandé au gars qui faisait le casting pour son film de me rencontrer dans un premier temps et de me faire lire en anglais To Be or Not To Be. Donc,
je crois que vous avez fait allemand première langue, voilà. Ça tombait bien.
Ça aide.
Et donc ça a donné ce que ça a donné, mais toujours est-il qu'il a demandé à me rencontrer par la suite. Et puis voilà, c'est comme ça que...
C'est que vous étiez déjà, en tout cas, dans cette envie de faire du cinéma.
Oui, voilà.
Ouais, c'était...
Et vous aviez... Et effectivement, à partir de la danse, bien sûr. Mais
Et leur premier jour de tournage avec Gainsbourg derrière la caméra, parce que Gainsbourg, c'était déjà quelqu'un d'assez impressionnant à l'époque.
Oui, oui, oui. Ben, moi, je l'appréciais beaucoup. Mes parents l'écoutaient beaucoup. Bon, moi, j'écoutais plus Madonna, Mais voilà, il faisait partie de ma vie et de ce que j'entendais à la maison. Donc, je sais pas, j'ai le souvenir d'une grande insouciance, pas d'impertinence, mais quand même de quelque chose d'assez détaché venant de moi. Je pense que j'aurais pas du tout vécu ce tournage de la même façon aujourd'hui.
Oui.
Voilà.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Hommage à France Gall, comment lui dire ?
Au beau milieu de la foule, d'un dimanche après-midi. Au beau milieu de la foule, je le reconnais, c'est lui. Au beau milieu de la foule,
C'était « Comment lui dire ?» signé France Gall. Attention les amis, ne bougez pas d'un pouce, ne bougez pas d'un doigt. Voici Marina Rollman.
Alors moi je vous parle de choses plus légères. C'est une bonne nouvelle, voilà, ça fait 10 jours qu'Alain Berset est rentré en fonction et c'est...
Ouais,
ça vous.
Je sais pas qui c'est.
Vous savez pas qui c'est? C'est le nouveau président suisse. Putain, personne sait qui c'est. Ça me rend dingue.
Il y a un président suisse?
Oui, chaque année c'est la même chose. Chaque année on a un nouveau, une nouvelle présidente en Suisse, c'est vrai, et chaque année tout le monde s'en fout.
Tous les ans?
Mais oui, chaque année. Mais ça, c'est typiquement.
La vraie démocratie.
Oui, mais ça, c'est typiquement la gauche inter. Hein, pour recommander des spectacles de mime bhoutanais ou du cinéma iranien, il y a du monde. Mais pour ce qui est de s'intéresser à son petit voisin suisse, un petit peu chiant, mais pas méchant, là, il n'y a plus personne. Alors oui, j'admets qu'il n'y avait pas vraiment de gros suspense, parce que, en gros, la Suisse, ça marche comme ça, c'est pas une élection directe. Il y a 7 ministres, et chaque année, par ordre d'ancienneté, c'est un des 7 qui devient président. Donc l'élection, je veux dire, elle existe formellement, mais c'est très rare que ça se fasse pas. Ce qui fait que oui, la présidence en Suisse, c'est un petit peu comme une chenille en soirée. T'as beau te faire discret, regarder ailleurs, au bout d'un moment, si t'es là, t'y passes, quoi. Mais c'est pas une raison. Bon, cela dit, même pour nous, c'est pas un événement. À chaque fois qu'ils font des sondages, il y a entre 25% et 50% des Suisses qui ne savent pas qui est en fonction. Tu veux disparaître, tu deviens président en Suisse. Hein. La Rousseau, les membres des G-Squad, Ramuncho du Big Deal, ils l'ont tous fait plusieurs fois. Mais bah oui, qu'est-ce qu'il est devenu? Bah, il était président en Suisse. Mais alors la question, c'est pourquoi est-ce que cette année, je décide comme ça d'arracher brutalement mon président de l'anonymat qui vient avec sa fonction et de l'imposer à des millions d'auditeurs qui, à Noël, avaient demandé un Magimix et non un cours de civisme helvétique? Eh bien, parce que mon souci avec Alain Berset, c'est que je trouve qu'il ressemble un petit peu à Édouard Philippe, votre Premier ministre. Et je suis pas d'accord que votre Premier ministre soit plus connu que mon président. Voici donc 3 bonnes raisons de vous intéresser d'un peu plus près à Alain Berset. Premier point, alors ils sont tous les deux chauves, mais Alain Berset, contrairement à Édouard Philippe qui essaye fourbement de faire diversion en se faisant pousser des cheveux sur le menton, Alain Berset assume complètement le côté patinoire à mouches, il n'est que surface réfléchissante, ce qui est pratique si vous décidez une nuit d'aller faire une balade à vélo avec lui. Deuxième point, ils sont tous les deux sportifs, mais quand Édouard Philippe fait de la boxe, genre le bad boy du Havre, oulala, trop difficile de taper dans un matelas avec des gants de cuisine, Alain Berset fait le choix de bonhomme et devient champion de 800 mètres. Est-ce qu'il y a moins glamour que le 800 mètres? Même un javeliste à côté, c'est un aspirateur à nénette. Et c'est ça, c'est là qu'on voit que c'est un vrai battant, Alain. Parce que dans la course à pied, tu vois, il aurait pu faire des choix faciles. Le sprint, tiens, c'est cool, le guépard, les éclairs, tout ça. À l'autre extrême, il aurait pu choisir le marathon. Il y a ce côté dépassement de soi, mental de l'acier. Et non, le type assume la suissitude jusqu'au bout et il choisit au milieu le 800 mètres. Voilà. C'est limite un sport que tu peux faire malgré toi. Régulièrement, il y a des gens qui font 800 mètres sans faire exprès. Et lui, il dédie sa jeunesse. Et je trouve ça très beau. Quelqu'un connaît un autre champion de 800 mètres?
Sûrement.
Bah non, parce qu'ils sont en voie d'extinction vu qu'ils baissent pas. Or, non seulement Alain Berset a une femme, mais il a 3 enfants. 3 enfants. Je veux dire, 1, ça peut être un accident. 3, ça veut dire qu'il a réussi à convaincre cette femme 3 fois de faire des enfants avec lui. Malgré le fait qu'il était champion de 800 mètres. Et ça, je trouve que c'est un truc de bonhomme, d'accord? Parce que c'est facile de se reproduire quand on fait de la boxe et qu'on a une barbe. Il y a beaucoup moins de champions de 800 mètres qui sont papas et qui deviennent présidents. D'un petit pays, certes, qui tire plus ou moins son chef à zigzag-zoug, mais quand même. Et 3e différence majeure. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas trouvé trace d'Edouard Philippe sur Internet faisant de la musique. Alors qu'Alain Berset, sous ses airs de type dont la conception d'une soirée détente, c'est de manger des fruits secs. C'est lui qui fait du piano, là.
Sans blaguer.
Je l'adore. Mais ouais, je suis trop fière. Allez, votez Berset. Ah bah non, on peut pas. Désolé.
France Inter, la bande originale. Le best-of.
En 99, vous, Mélanie Douté, vous vous inscrivez à la Sorbonne et vous imaginez que vous allez vivre à la façon de Sophie Marceau, l'étudiante, ou la boum, mais c'est pas vraiment ça.
Non, c'est pas vraiment ça, mais enfin, c'était pour la fac d'anglais. J'ai fait un petit début de cursus de fac d'anglais, mais c'était une bonne couverture sociale, en fait, juste pour la sécu. je commençais à prendre des cours privés au théâtre au cours Périmonie, qui me préparerait plus tard au conservatoire, mais l'anglais n'a pas été une passion dans ma vie. Hein.
Ouais.
Non.
Vous êtes à un moment juste autorisée à vous dire je vais devenir comédienne, mais pas parents sont comédiens, alors j'imagine que c'est plus difficile de se dire, allez, je le fais aussi.
Oui, je crois que j'ai repoussé le moment où je me le suis de me l'avouer, mais après, quand j'y suis allée, je m'y suis jetée, et puis à corps perdu, et puis mes parents m'ont dit, bah, écoute, si t'as pas un nom, par contre, avant 25 ans, tu t'arrêteras.
Ouais, ok.
Donc, il fallait, non, mais je pense qu'ils aient raison, parce que c'est très dur d'avoir des, quand on voit
des... Il y a pourtant des carrières qui se sont déclenchées plus tard
bien sûr, mais c'est vrai que c'est un métier qui peut rendre tellement malheureux. Que autant
parce qu'on attend beaucoup.
Écourter, ouais, parce qu'on attend, et puis parce que même si ça peut être là, ça peut disparaître tout aussi vite. C'est un métier dur. Mais c'est un métier de passion, donc c'est ce qu'impose la passion.
Léla nous parle de Sophie Marceau. Vous vous êtes identifiée à Sophie Marceau en la voyant au cinéma ou,
oh non, jamais. Jamais identifiée, mais je l'admire.
Vous pourriez être la petite sœur de Sophie Marceau.
Oh, merci, c'est gentil. Mais j'admire beaucoup, mais je ne me suis pas identifiée.
En 2003, vous écoutiez.
Express yourself. Express yourself.
Simplement pour revenir sur Yves Simon et Diabolomante, c'était pour le film que vous avez choisi la musique ?
Oui, parce que c'était Chabrol, parce que tout d'un coup face à lui, j'avais aussi un côté. Enfin, c'était un maître, quoi, Chabrol. Donc, je gardais cet œil extrêmement admiratif, comme peut avoir une étudiante face à son professeur. Enfin, voilà, j'ai vraiment une chance folle de tourner avec lui. Il y avait aussi Suzanne Flon, Magimel, Suzanne qui était une actrice extraordinaire. Qu'a créé quand même Anouilh, enfin je sais pas, sa force, le respect.
Ouais, c'est un César pour du meilleur jeune espoir féminin.
Nomination, pardon.
Vous êtes nommé.
Il serait là avec moi à table.
Je sais pas, je vous le donnais moi, en fait, je vous le donnais, Mélanie, comme ça.
C'est gentil.
Voilà, le frère du guerrier. Il vous a demandé, Chabrol, pour ce rôle, de faire quelques petites modifications physiques, je crois.
Oui, de me couper les cheveux.
Ouais.
Ça a été hyper dur.
Non, ça peut être vécu comme un drame. Juste ce côté, à un moment, voilà, vous êtes une jeune femme, on enlève une sorte d'apparat, un peu de féminité, pour rentrer dans le rôle de la bourgeoise.
Oui, il m'aurait demandé de
n'importe
me raser
quoi.
La tête.
Ah ouais, c'est vrai.
Fait, bien sûr. Ouais.
Et cette même année, il y a quand même un film assez étonnant, c'est Leïla de Gabriel Axel.
Alors en fait, ça c'est le premier que j'ai fait. Ouais. J'ai eu la chance aussi de bosser mon premier film, donc c'était un film un peu particulier,
ouais,
hein, c'est un film danois, muet.
Pas de dialogue,
avec Michel Bouquet qui lit un poème pendant tout le film de Carole Blixen. C'est un film un peu...
Oui, c'est assez spécial.
Très France Inter.
Mais c'est Gabriel Axel qui réalise ça.
Mais Gabriel Axel, c'est quand même le monsieur qui a fait le Festin de Babette.
Ben ouais, que vous connaissez depuis très longtemps, en fait.
Oui, que je connaissais, il est décédé, le pauvre, depuis, mais... Enfin, pas juste après.
Il vous a connu enfant, il vous a connu petite.
Oui, il m'a connu petite. En fait, voilà, mes parents étaient comédiens, donc j'ai rencontré pas mal de monde quand j'étais petite, ouais.
Et ça fait un point commun. Michel Bouquet est un trait d'union avec Michel Faux.
Oui, exactement. Avec qui vient de finir le Tartuffe, où il était grandiose.
Exactement.
Hein. Et vous l'avez vu le film sorti. Il n'est pas sorti en France.
Il est sorti dans une salle. Non, mais c'est vraiment un film pour un
concept.
Concept.
En 2010, vous êtes au théâtre et vous écoutiez Nina Simone.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. It's alright.
J'adore cette version.
Ouais.
It's alright.
Pourquoi cette musique ?
Je crois que c'est l'année où naissait ma fille, donc mon petit soleil, hein, évidemment. Et puis parce que Nina Simone est dans le spectacle aussi, et voilà. Depuis, je trouve qu'elle a, à part la voix, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Non, je trouve qu'elle a, une voix ne se lasse pas, quoi. Je trouve qu'elle a quelque chose d'incroyable dans la voix.
Elle donne la chair de poule surtout.
Ouais, ouais,
et puis on a l'impression qu'il y a une espèce de souffrance, ou en tout cas de poids. C'est pas de la chanson, c'est de l'interprétation. Quoi.
Elle a une souffrance lumineuse. Elle a un paradoxe dans sa voix qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle porte dans sa voix toute sa tragédie et en même temps, elle veut tellement communiquer au public. Elle a quelque chose de solaire. Je trouve cette voix bouleversante.
Et on vous retrouve en 2010 aux côtés de Jacques Weber sur scène dans une pièce peu connue d'Ibsen, Solness le constructeur. Et vous n'êtes pas, il n'y a pas que Jacques Weber, il y a aussi Edith Skob.
Oui, oh, j'ai de la chance aussi.
Ça, c'est la classe aussi.
Edith Skob, ouais.
De se retrouver sur un tel projet entouré par ces deux comédiens qui sont, dans l'histoire du théâtre, c'est pas n'importe qui.
Oui, j'ai de la chance. Et avec le texte d'Ibsen, quand même, qui est une pièce incroyable, Solness le constructeur, qui est une très belle pièce. C'était une très très belle aventure, j'ai un beau souvenir.
Et ça, c'est la carrière au théâtre, on vous connaît bien au cinéma. Est-ce que. L'idée, c'est aussi, à partir de ce moment-là, de vous dire, voilà, vous avez déjà fait pas mal de théâtre avant, mais de façon peut-être un peu moins exposée. C'était aussi une ambition de creuser davantage ce sillon-là.
J'ai pas de plan de carrière, il y a pas ouais. de là c'est vraiment la rencontre avec Michel et avec cette pièce de d'où sa mère de Poiret, mais la scène c'est vraiment un repère pour moi, je trouve ce rapport concret au texte, à la salle, au public, aux mots.
Il y a l'odeur aussi d'un théâtre.
Oui, la planche, quoi, la rampe. Je sais pas, c'est vraiment, c'est un rapport vital. Quoi.
Ça veut dire que s'il fallait arbitrer là aujourd'hui entre une proposition cinéma et une proposition théâtre, rien n'est aussi évident en fait. C'est-à-dire, c'est pas forcément le cinéma qui gagnerait.
Non,
à
non,
l'issue.
Non, exactement. Ouais. Non, c'est je marche encore. Je me permets ce luxe-là de marcher à l'instinct et à ce qui va me plaire, un personnage qui va faire écho en moi ou pas. Et là, sans aucune interrogation, c'est Elisabeth dans Tout sa mère.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Tout pour la musique, il donne vraiment tout pour la musique, notamment Rex Orange County, Sunflower.
I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said, I love you till the day that I die. Well, maybe she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. To get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first? Told me that I didn't have to cry. Said I didn't need to get down or feel empty inside. And then told me that she'll love me for as long as she's alive. And well, maybe she's right. Cause I hate it when I feel like I'm not me. See, I honestly don't even know why. I honestly don't even know why.
Sunflower, Rex Orange County, dans le meilleur de la bande originale sur France Inter, une émission une nouvelle fois magnifiée par le brillant Tanguy Pastureau.
Oui, et depuis ce matin, soulagement, les enfants, ces petits branleurs qui savent gérer un iPad 3 ans avant d'être propres, sont à l'école. Dès 5h30, les parents harassés faisaient la queue devant le groupe scolaire en pleurant de joie. Quand la première maîtresse est arrivée, il y a eu une hola. Un homme lui a offert son rein au cri de Jules Ferry Akbar. 15 jours à se farcir Peppa Pig quand on a des petits, ou le rappeur Jules quand on a des ados. C'est comme Peppa Pig, mais sans les qualités littéraires. Aucun parent ne tient le choc. Si à Guantanamo, les ricains avaient foutu dans la cellule cellule de chaque barbu un gosse qui chante en boucle le générique de l'âne trop. En 20 minutes, les mecs avouaient tout, jusqu'à l'assassinat de Kennedy et leur responsabilité dans le massacre de la Saint-Barthélemy. À 8h30, devant la grille de l'école, les parents crevaient, sont écriés « Enfin seul, on peut faire l'amour !» Mais pas de bol, il fallait aller au boulot. Donc le City au Porn a de belles journées devant lui. Qui dit rentrée dit aussi retour de Nagui, remplacé durant les Noëls par Leïla et Daniel. Deux personnes en remplacent une. Si tout le monde fait ça, demain, il n'y a plus de chômage. Ouais. Vous virez Michel Chevalet, vous mettez les Bogdanov. Chez Arthur, vous virez Elise Moon, vous mettez Teddy Riner, qui compte pour deux ou 16. Un Nagui toujours plus séduisant, car ce regard malicieux qui rappelle celui qu'a Donald Trump au moment de tweeter une connerie. Enfin, de tweeter, quoi. Se conjugue désormais à une peau dorée qui fait que quand Nagui passe devant chez Bennett, la dame le remet à sa place, avec les autres chocolatines. C'est au moment de mettre la barre de cacao qu'il crie « Non !» ou « Oui !» selon les jours. Quant à moi, j'ai passé un bon Noël. J'ai eu en cadeau le livre « Faire rire sans être accusé de racisme, ni de sexisme, ni d'homophobie, ni d'antisémitisme, ni d'islamophobie, ni de dérive droitière pour les nuls hein, », qui comporte deux pages de vannes sur Jean-Pierre, un mec blanc de 50 ans, issu de la classe moyenne, sans handicap, ni même de cicatrices d'appendicite, le dernier dont on peut se foutre de la gueule. Alors bien sûr, le 31, j'ai regardé les vœux de Macron, hein, le président de la WIN, qui nous a maté dans les yeux, comme s'il allait nous prendre un par un sur son bureau à l'Elysée, tellement à fond qu'il pourrait faire signer un contrat de confiance d'Arty à un manchot. Et autant Hollande, quand il présentait ses vœux, on avait envie de lui répondre merci, mais surtout la santé, parce que le reste c'est cuit, mon pote. Autant Macron, mais nous a transcendés.
Et oui, avec cette fameuse phrase, nous sommes la nation française.
Mais oui, c'est du Grégoire, toi plus moi, plus toi, plus nous, plus ta mère. Mais en mieux écrit, les Macron, Emmanuel et Brigitte sont également partis à la neige, à la Mongie, hein, parce que c'est là que lui allait en vacances enfant, il y a 4 ans. Alors, moi aussi, j'ai voulu aller là où j'allais enfant pour les vacances. Je me suis présenté avec mon slip de bain de l'époque, du 6 ans, au club des petits loups de mer de Crozon. Malheureusement, ils m'ont pris pour un pédophile, j'ai fait 2 jours de garde à vue. Sinon, sachez que Nemo, le chien des Macron, n'était pas à la Mongie avec Ken et Barbie, puisqu'ils l'ont renvoyé plusieurs jours dans le refuge dont il l'avait sorti. Hein, c'est comme dans Prison Break, quand Michael Scofield se retrouve en tôle au Panama alors qu'il s'était évadé avec tous les psychopathes du coin. Il y en avait même un qui votait Bayrou. Nemo a eu un dressage destiné à le rendre, figurez-vous, plus présidentiel. Hein, Philippe Poutou aurait eu la même chose s'il avait été élu. Il urinait sur le parquet, bouffait les chaussures de Macron, un vrai ouf, hein, un anarchiste nourri au frolic. Bon, là c'est réglé, hein, le kleps est digne du lieu. Dès qu'il y a un despote qui vient acheter 30 rafales et notre dignité, il lui lèche le bas du mollet. À noter qu'Edouard Philippe a aussi fait sa rentrée, mais ah bon, personne ne s'en est aperçu, comme d'habitude. Il a dit que sur route, on roulerait bientôt à 80, donc ça sert plus à rien de signer au PSG pour se payer une Bugatti. Hein, moins de 130, le véhicule cale, on va voir Neymar dans sa Maserati tirée par 4 mules. Jean-Luc Mélenchon a lui pété les plombs, hein, c'est sa spécialité, la mère Poulard, c'est l'omelette trop chère. Mélenchon, c'est l'attention à 27. Lors d'une manif hier, un agent de sécurité ne l'a pas reconnu. Hein, il doit regarder Zen TV, donc il a jamais vu Mélenchon. Et il a commencé à le palper. L'autre, outré, a répondu « Personne me touche hein, ». C'est comme avec Elisabeth II, les roturiers n'ont pas le droit de mettre la main dessus, ni même un doigt en cas de soirée un peu plus sympa. Hein. Il y a les gueux et au-dessus, entre Mercure et la sortie du cosmos, il y a Mélenchon. Enfin, Marine Le Pen a fait sa rentrée hier. Elle s'est dite favorable au changement de nom du Front National. Mais en même temps, c'est elle qui l'a planté, donc c'est à elle de prendre un autre nom. Hein, de dispo, il y a Martine Sanchez, Elodie Martin, Binta Diallo, si elle a envie de surprendre. Hein. Le champ des possibles est énorme. Alors, bonne rentrée à tous. Prochaines vacances dans 6 semaines. Tenez bon, les parents.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Vous vous lancez dans votre société de dressage animalier. Vous avez quoi, 21 ans et vous participez notamment à pas mal de tournages, près de 150 films, je crois.
Ouais, c'est ça, des films, des téléfilms avec Les Rivières Pourpres, Le Pacte des Loups, des films comme ça.
Astérix, Les Dalton.
Dressé en temps plan, je suis assez fier de ça.
Ça veut dire que comment est-ce qu'on vous trouve? Vous étiez devenu une référence, parce que 150 films, je me rends pas bien compte du nombre de dresseurs qu'il y a sur le marché du cinéma. Est-ce qu'on fait toujours appel aux mêmes? Est-ce qu'il y a une fidélité? Comment ça fonctionne?
Non, mais c'est assez fermé le cinéma, ouais, hein, c'est un secret pour personne. Oui, je sais pas combien on était à l'époque, 5-6 peut-être. Et mais pour Rentemplant, c'est particulier parce que c'est, faut trouver un chien qui n'existe pas quand même. Un chien qui a une truffe énorme, ouais. Qui, tu vois, c'est quand même.
Et comment on fait?
Eh ben,
on lui fait une allergie à la truffe. Ah,
tu frottes au papier de verre.
Alors n'envoyez pas des messages sur Facebook sur le manque de respect sur les animaux et la cause animale.
On les déteste.
Ceci n'est aucune vanne. Merci.
Non, non, Rentemplant, non, mais c'est un joli coup. T'imagines quand t'es dresseur d'animaux pour le cinéma, dresser Rentemplant, c'est un kiff, génial, quoi. Le chien le plus teubé de l'Ouest, c'est super, quoi. Donc je rêvais de le faire. Et en fait, à un moment, t'es confronté à une réalité, ça n'existe pas. D'ailleurs, même les Américains, quand ils font l'adaptation de Lucky Luke, il n'y a pas de Rentemplant, parce que ça n'existe pas, un chien comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait se servir d'une base qui était le pincher moyen marron, ce qui est une sorte de petit Doberman.
D'accord.
À qui on allait adapter une espèce de truffe où on allait l'entraîner comme si on lui faisait porter une muselière, par exemple, sur lequel on y allait avoir une prothèse de truffe avec une énorme boule. Et puis ensuite, on allait lui peindre un peu les pattes en blanc comme Rentemplant. On allait lui mettre un collier rouge avec une étoile de shérif. Et était né mon Rentemplant. Et je les ai tous niqués comme ça.
Et combien de temps c'est de boulot pour dresser un chien? Parce qu'il faut trouver le chien.
Oui,
vous
oui,
prenez
mais...
quoi tout petit? Vous le prenez à quel âge?
Ah bah
parce
non,
que...
mais c'est ça, tu rêves, pas du tout. Comment c'est les Américains qui font ça. Bah, nous, on t'appelle et puis on te dit, il faut rendre Rentemplant, on tourne dans deux semaines. Et
alors,
je dis, mais ça n'existe pas Rentemplant. Donc tu cherches un Rentemplant, tu cherches une solution. Tu croises tous les dresseurs dans la place de Paris, dans l'ascenseur chez UGC avec des chiens improbables qui ressemblent pas du tout à Rentemplant, mais où tout le monde tente sa chance avec son Rentemplant, tu vois. Donc il a fallu trouver un chien très sympa, de bonne famille, bien éduqué,
et avec un bon pédigré.
Voilà, avec qui j'allais pouvoir devenir pote assez vite, quoi. C'est ce qui s'est passé avec Rentemplant.
Vous avez des animaux de compagnie à la maison ?
Et il me reste un petit American Staff qui est chez ma maman, qui s'occupe de sa sécurité et de sa
tranquillité. C'est-à-dire qu'il n'est pas imaginable pour vous de ne pas avoir d'animaux?
C'est un peu compliqué, mais la réalité, c'est que ma vie a changé. Alors, ça me manque énormément. C'est toujours ma passion du dimanche. Donc, je continue à aller chez mes potes dresseurs du cinéma. Je pense à Pierre Cadéac, où je vais me balader avec ses loups, où je vais donner à manger à son ours. Et puis, j'en mets dans mes films.
Quoi,
surtout maintenant, je mets des animaux dans mes films.
Mais vous n'avez pas le temps de vous occuper ou d'avoir un chien à vous?
Non, là,
ça
serait un peu égoïste.
Vous voyagez trop et vous...
Ouais, ça serait un peu égoïste que j'ai un chien en ce moment.
Et cette fixation sur Rentemplant, ça date de quand?
En 2009.
En 2009, c'est la naissance de Kaira Shopping. On l'a évoqué un peu tout à l'heure avec vos copains Mehdi Sadoun, Jib Potier, que vous rencontrez finalement. C'est des potes que vous rencontrez où d'enfance, des potes.
Courtrajmé.
Ouais, Courtrajmé, exactement. C'est Courtrajmé. C'est Kassovitz qui, quand je dresse les pitbulls et les rottweilers sur la rivière Pourpre, me dit, faut que je te présente à des potes à moi qui font des petits clips et des petits courts-métrages. Ils ont ton âge, tu vas bien t'entendre avec eux, et ils me présentent à l'équipe de Courtrajmé. Et du coup, je sors un peu de ma banlieue et je traîne avec ces mecs qui me permettent d'avoir une espèce d'autres ambitions professionnelles, parce que je me rends compte que je suis pas si différent d'eux, même si eux sont des fils de metteurs en scène, des fils d'artistes, ce qui est pas du tout mon cas. Mmh. Et là, il y a Mehdi qui traîne là-dedans, il y a JB qui traîne là-dedans. On les utilise pas beaucoup.
C'est marrant, pardon, je vous interromps volontairement parce que par rapport au film La Surface de Réparation, j'ai l'impression que c'est un peu le même genre, qu'il pourrait y avoir le même genre de mec que le Franck que vous incarnez au cinéma autour du monde du football, avec des gens qui tournent comme ça autour du monde du cinéma,
ouais,
en essayant de rentrer, d'exister ou de servir à quelque chose et d'avoir une reconnaissance de la part des gens du milieu et de ceux qui réussissent.
Ouais, c'est ça. Et ça passe par
vous
accepter...
Dites beaucoup, on traînait autour, on essayait de voir ce qu'on pouvait faire.
Ouais, c'est ça. Et puis ça passe aussi par le fait de s'émanciper un peu et de se dire peut-être que je pourrais faire ça moi aussi, quoi. Mais quand t'es confronté à des gens qui sont fils d'artistes et que toi, ta maman a fait le ménage et que autour de toi tes potes ils bossent à la mairie ou à la poste, tu es spectateur de ce que fait ces mecs jusqu'à ce que tu oses te dire peut-être que je peux essayer un truc. Ouais. Et j'essaye un truc qui s'appelle Kaira Shopping.
Et ça fait 3 saisons.
Ça fait 3
saisons. Et ça cartonne. Canal est sous le, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, est sous le charme, commande 40 épisodes, plus diffusion en ligne et à l'antenne.
Ouais, ouais.
Et là, tout d'un coup, ça doit être magique.
Mais alors, c'est bizarre parce qu'à l'époque, on sait maintenant ce qu'on peut faire avec Internet. Mais à l'époque, quand Canal+ te dit on va en faire une web série, c'est une espèce de constat d'échec. C'est
la voix de garage.
Ah, c'est la voix de garage. Ouais. À ce moment-là, c'est le début, quoi. Ouais. Et ça
faisait atelier de création. On vous passe pas à la télé, mais vous pouvez jouer dans votre coin.
C'est exactement ça. Ouais. Alors, il y a peut-être un truc à faire avec vous, mais de toute façon, on vous met sur Internet. Donc, si c'est pas bien, on vous cache. Et puis, on dira qu'on vous a trouvé. Si jamais on trouve que c'est bien.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Je veux du rire, pas du pipe chaud, du vécu, je veux des gros. Enfin bref, c'est l'heure de Guillermo Guise.
Bonjour les amis. Alors vous le savez certainement, la 75e cérémonie des Golden Globes se tenait cette nuit à Los Angeles. Du coup, comme j'ai écrit mon texte hier après-midi, je vais plutôt vous parler de Blaise Matuidi. Alors là, il y a Nagui qui se fait trop de la teub et tout, du foot. J'ai bien fait de pas le virer en décembre.
Le problème, il a eu des soucis, le pauvre.
Exactement. Et Nagui, le foot, c'est sa troisième passion après la musique live et les drogues en sachet. Et pareil pour Daniel Morin qui a longtemps entraîné une équipe de jeunes, vraiment avant que des allégations, blablabla, que les parents auraient découvert que. Moi j'ai toujours, c'est facile d'accuser sans preuve. Derrière, ça fait des gens brisés qui sont obligés de faire 39 chroniques par semaine pour s'offrir les avocats un temps soit plus compétitif. Eh bien, malgré les souvenirs douloureux, Daniel m'encourage toujours à oser parler de foot sur France Inter. Alors, une chaîne où l'amateur de foot est pourtant considéré comme ce qui rapproche le plus Homo sapiens des petits singes primitifs du Crétacé. C'est pas du mépris, c'est de la curiosité. Vraiment, je me rappelle la saison passée, j'ai fait une chronique sur le foot. La patronne de la chaîne, Laurence Bloch, est venue personnellement le féliciter. Après l'émission, elle m'a dit « Vous vous exprimez très très bien pour quelqu'un issu de la différence mentale. Bravo Ernesto. Mais la prochaine fois, parlez-nous du cinéma bosnien, vous serez gentil. » Bref, samedi, la Juventus de Turin a gagné 0-1 à Cagliari, un match entaché par les insultes racistes qu'a subi le joueur français de la Juve, Blaise Matuidi. Et je profite de cette tribune pour m'adresser directement aux nombreux supporters racistes de Cagliari qui nous écoutent. Alors déjà, merci pour votre fidélité. On a besoin de vous, les gars. 1 800 000 auditeurs, tu les fais pas uniquement avec des leaders de ZAD, des profs de langue morte et des graphistes momentanément sans emploi fixe. Ah non, 1 800 000 auditeurs, on a forcément des supporters sartes férus de violence verbale gratuite à l'encontre de joueurs noirs, pour paraphraser Thierry Roland. À eux, je voudrais rappeler deux petites choses. La première, le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit, voilà. Et de deux, ils sont italiens. Or, les Italiens, aux dernières nouvelles, ça parle quand même avec les mains, ça vole pour un oui ou pour un non, ça se nourrit uniquement d'aliments qui terminent en i.
C'est un délit, c'est un
délit.
Alors,
s'il y a bien un peuple qui me semble pas hyper légitime pour être raciste envers les autres peuples, c'est bien les Italiens, quoi, tu vois. Et s'il faut devenir méchant, je ressors les dossiers qui font de la peine, hein. Mario Dastarac en tête, et je suis prêt à aller jusqu'à Vincent Moscato, y a pas de problème. Hein. Alors, donc, avant d'être raciste dans une tribune, regarde d'abord ton propre pays, hein, pas vrai, Maréchal?
C'est vrai.
On est bien d'accord, merci beaucoup. Affirmatif. Je fais de leçons de morale à personne, ceci dit, le racisme dans le stade, je l'ai vécu, je sais ce que c'est, enfin, je vais souvent voir le PSG avec Leïla. Donc, voilà, je la vois bave aux lèvres, etc., tremblante d'agressivité, insulter les joueurs avec des références que personne ne comprend dans la tribune. Ta mère, elle est dans un roman de Marie Darius Day. tout le monde regarde comme ça, hein? Ouais! Je dis, Leïla, qu'est-ce qui t'arrive? Tout est bas de gauche, et tout. Si, mais là, on m'a piraté mon wifi et tout, mon chien prévient jamais quand il rentre tard. À Noël, on m'a offert un pins le roi Merlin, je suis au bout du rouleau. Et du coup, voilà, la haine dans les stades, c'est avant tout la haine de soi. Alors, en attendant, il y a une solution toute bête pour que les joueurs noirs arrêtent de se faire emmerder, de morfler. Faut juste mettre une femme dans chaque équipe. Et voilà, il a pas dit que des conneries, Thierry Roland. Allez, bonne émission.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale, ça continue. Et cette fois, qui dit meilleur, 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 dit, bah, hey, moi. Et ça ne va pas. Ça ne va pas bien, les amis. Non, 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 non. Ça a même commencé hyper mal. Aujourd'hui, Leïla est arrivée en larmes. Elle était prostrée au fond de sa chaise, en train de dire « Non mais merde, sérieusement, vous voulez ma peau, quoi ? C'est le dernier jour de la semaine, je suis crevé et vous m'imposez une émission avec comme sujet l'univers du football. Vous savez que je supporte pas le foot !» Alors pour la calmer, Nagui a dû lui promettre que très bientôt, on inviterait un danseur philosophe qui ne parle que le grec ancien. Rien pour elle. Une info qui l'a réconfortée, même si elle sait très bien que Nagui ne connaît que des footballeurs. Et puis, l'ambiance est terne depuis la sortie dans la presse du manifeste des 100 gonzesses, dont Catherine Deneuve, qui défendent les harceleurs sexuels. C'est vrai que ça crée un malaise. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est aussi jour de fête. Eh oui. Partout dans le monde, c'est... Eh oui, le 12 janvier, c'est la journée mondiale des roues, hein. Quelle bonne nouvelle. Oui, la journée du roux, et plus précisément le Kiss Ginger Day, ce qui veut dire la journée où tu embrasses un roux. Le challenge est simple, les amis. Si aujourd'hui vous apercevez un roux, vous lui sautez dessus et vous l'embrassez à pleine bouche. Bon, la journée des roux, c'est vrai que c'est hyper cool, mais est-ce que les roux apprécient cette journée? C'est vrai que c'est leur journée, après tout, on pourrait se renseigner, non? Parce que t'es roux, tu te lèves le matin, tu sors, la journée des roux, t'es hyper fier. Mais as-tu envie pour autant qu'un inconnu te saute dessus et commence à te galocher copieusement en te palpant les fesses? Non, pas forcément. D'ici à ce que tous les roux s'indignent et portent plainte pour harcèlement, il n'y a pas loin. Heureusement, il y aura sûrement Deneuve et sa bande pour sortir une tribune de défense des harceleurs de roues pour défendre les droits fondamentaux à abuser des roues. Hein. Bon, tout ça, c'est pas très très joyeux. Heureusement, il y a les soldes. Ah, les soldes, c'est tellement cool. Moins 10, moins 20, moins 30, moins 50, moins 70% de quoi s'acheter. Tout ce dont on n'avait pas besoin avant-hier. C'est la bonne nouvelle. Et c'est plutôt bien pour se remonter le moral. Car aujourd'hui, il n'y a pas que Leïla qui a eu un petit coup de moins bien à cause de la programmation. Non. Nagui aussi a flanché, oui. Nagui en larmes, allongé sur la moquette qui sanglotait comme un enfant battu, la voix noyée par les larmes et qui nous a dit « Non mais merde, j'ai vu le planning !» Et lundi, on a Pascal Elbé et Anna Mouglalis qui viennent pour parler de la série « Paro Noir ». C'est une série sur la politique, j'y connais rien, j'y comprends rien. Leïla a bien essayé de le rassurer en lui disant qu'elle allait tout faire pour lui expliquer, lui apprendre l'histoire du Parti Socialiste. Ça a calmé Nagui, même si ce dernier n'est pas dupe, il sait très bien que Leïla n'y connaît rien non plus en politique de gauche, vu que c'est une grande nostalgique de Nicolas Sarkozy et son ministre, le charismatique Brice Hortefeux.
On avait dit qu'on n'en parlait pas.
Brice Hortefeux, mais ce serait pas un... Mais si, c'est un roux. Allez, tout le monde se mobilise et cherche Brice Hortefeux dans Paris pour lui sauter au cou et le couvrir de baisers. En même temps, si vous interpellez Brice pour l'embrasser, ne le couvrez pas de bisouilles. Justin, ça ira. Rappelez-vous de sa célèbre phrase. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Ah oui, non, parlant, il ne parlait pas des bisous, il parlait des Arabes. Non, rien à voir. En même temps, il ne va pas nous emmerder non plus, le Brice, hein, si on veut l'embrasser comme des forcenés et qu'il nous embête. Moi, tout de suite, j'appelle Deneuve et ses copines en direct pour qu'elles nous signent une tribune dans Le Monde pour défendre le droit à harceler les roux racistes. Voilà ce que je ferai. Malheureusement, toutes les bonnes choses, toutes les très bonnes choses en tout cas, ont une fin, et le meilleur de la bande originale aussi. Best of de bande originale qui était réalisé par la divine Marianick Rimbaud. Je vous rassure les amis, nous serons au rendez-vous dès lundi à 11h avec Anna Mouglalis et Pascal Elbé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h pile poil dans Vous les femmes, la seule émission qui est déjà inscrite pour 2019 et 2020.